Aujourd'hui, donc, nous recevons Laurence Benaïm. Vous êtes née à Paris en 1961. Vous avez une formation littéraire, Hippocane Cannes, licence de lettres modernes à la Sorbonne, diplômée du CFJ, école de journalisme. Vous êtes actuellement donc journaliste, vous vivez et travaillez à Paris, où vous collaborez au quotidien Le Monde, en charge de suppléments mode en capitale. Vous êtes donc une spécialiste d'effets de mode et de société. Vous avez d'ailleurs reçu le grand prix du livre de mode 2000 pour votre livre « Pantalon, une histoire en marche » aux éditions de l'Amateur. Vous êtes l'auteur de la première biographie consacrée à Yves Saint Laurent aux éditions Grasset en 1993, de « Pantalon, une histoire en marche » dont je viens de parler aux éditions de l'Amateur. Vous avez consacré des ouvrages également à Issey-Miyake et Madame Gray aux éditions Assouline en 1998. Vous avez organisé une exposition Pantalon à faire de liberté au printemps de la mode en 1999. Et enfin, vous êtes la co-auteure d'un CD-ROM sur Yves Saint Laurent, le premier CD-ROM consacré à l'histoire et à l'œuvre d'un couturier. Votre prochain ouvrage, c'est une biographie de Marie-Laure de Noailles qui paraîtra aux éditions Grasset en mars 2001. Je vous laisse la parole maintenant.
Merci, merci à Rennes, merci à l'Université de tous les savoirs de m'accueillir. J'ai choisi de parler de la chair de la mode. Pourquoi la chair de la mode ? Parce que je pense que la mode est d'abord une manière de vivre, qu'elle est mouvement, qu'elle palpite. C'est une manière de voir, d'écouter, qu'elle vibre, qu'elle révèle les entrailles au fond d'une époque. Aussi, je développerai deux thèmes principaux. Tout d'abord, la mode de la chair, c'est-à-dire l'envahissement de l'époque par la chair, cette reconquête de l'individu et du plaisir après des années de crise dominées par l'austérité puritaine liée à la crise. Dans une deuxième partie, j'aborderai la chair de la mode. J'essaierai de montrer comment cet envahissement de la chair fait que le vêtement se trouve aujourd'hui n'être plus que la caution invisible de la mode. Une mode qui, je crois, n'a jamais été aussi nue et qui se trouve presque sans discours au bord de l'inconsistance et du dépouillement. Dans une troisième partie, je parlerai de la chair faite cannibale, de l'habit fait chair. Enfin, nous pourrons peut-être, en guise de conclusion, imaginer que face à cette chair dévorante, cannibale, le vêtement du futur sera peut-être sous-cutané. À propos de la mode de la chair, de cette idée de chair retrouvée, je dirais qu'au cours des années 90, la mode a offert, dans un carambolage de six tensions, toutes les images d'une mémoire en danger, images inquiètes, euphoriques, lancées dans un déballage de travestissements, de postiches, de ballons de silicone, une surenchère d'artifices, comme pour se débarquer de l'autre extrême, la fuite anorexique, le culte de la maigreur, l'absence de phare, le naturel poussé jusqu'à l'extrême de son dénuement. Au nom du puritanisme, les années 90 ont boudé le corps, elles l'ont desséché, aplati, vidé de sa chair, fluet, le corps arrimé avec les épaules creuses des waves, ces mannequins squelettiques à l'allure misérabiliste, flanqués de robes de cachemire serpillères. Le cri était son complice et la chaussure de chantier pour femme, sa plus grande audace. Après les déchaînements dorés des années 80 sur fond d'aérobic et de disco, le corps s'est mis à raser les murs de la mode, témoin d'une crise économique, sociale, morale, liée à la guerre du Golfe, mais aussi aux ravages de la maladie, de la peur, pardon, de tous les fléaux noircissant l'horizon d'une fin de siècle. Aujourd'hui, cette standardisation s'efface. Entre galeries d'art en appartement et boutiques où l'on est reçu comme dans un salon, entre voyages à la carte, bande-son sur mesure et pièces customisables à commander sur le net, on assiste de Paris à Milan et de Londres à New York à l'émergence prometteuse d'un nouveau marché, moins adapté aux rêves de chacun, aux rêves de tous, pardon, qu'à ceux de chacun. Après avoir été soumis au règne de l'effacement, le vêtement donc redevient aujourd'hui une extension de soi, un portrait en marche. Tandis que les États-Unis, rivés sur les cours de la bourse, ont célébré une euphorie financière sans précédent, la consommation a retrouvé ses marques et le plaisir est entré à nouveau par la grande porte. Dans une flambée de luxe, on l'a vu cet hiver, la mode a retrouvé ses parures animales, se laissant séduire à nouveau par la fourrure, mais également par le python, le crocodile, toutes les peaux. Aujourd'hui, l'une des grandes inspiratrices de la mode est une artiste américaine qui s'appelle Vanessa Beecroft et qui réalise ses installations vivantes avec des femmes nues qu'elle présente dans des musées. Ici, une image, ouais, vous la voyez, prise au Salomon Guggenheim Museum à New York en 1998. Donc, c'est une des installations de Vanessa Beecroft qui présente ces femmes nues. Je dirais que le Viagra et tous les ce qu'on appelle aujourd'hui les sensual energizers ont contribué à célébrer un corps fier de lui-même, s'affichant triomphal, païen dans les campagnes publicitaires, affranchissant la nature de ses contraintes. Du jamais vu depuis les années 70, décennie de toutes les libérations. L'époque où Jane Birkin, qui ne défilait pas encore pour Hermès, chantait 69 années érotiques. En fait, on peut parler de revanche des sens, de corps retrouvé dans une fête des apparences. Entre corps à corps siglé et humide chez Dior, scène avec femme et chien chez Ingaro, les campagnes publicitaires de la mode n'en finissent pas d'exposer un corps sous toutes ses facettes, livré au voyeurisme d'un objectif en mal de sensations fortes et de ce que certains ont appelé le porno chic. Ici, vous allez voir des images de l'été 2001 qui vont de... Attendez, je vais me pousser. Peut-être. Vous voyez ? Ouais. Qui vont de Morgane. Qu'est-ce que je dois faire ? Bon, je reste assis, voilà. Morgane. Tu vois. Galliano, été 2001. Galliano, toujours été 2001. Et Gaspar Jurkevich aussi, été 2001. Au fond, comme si les campagnes publicitaires de la mode, et l'image de la mode inspirait à son tour la mode. Une mode dont sera ici qui ne sera pas vendue, mais qui vend des images. Je dirais que la chair fascine. La chair est entrée dans l'ère du divertissement. Le nouveau millénaire libère des secrets inavouables, a-t-on lu par exemple dans le catalogue de vente par correspondance de la ligne Evans Dong, spécialisée dans l'art, le design et la mode. On lit « Aujourd'hui, la pratique du fétichisme ne concerne plus une tribu, une petite communauté. Le fétichisme se démocratise, reste trouble, mais s'éloigne de la culpabilité et de la vulgarité. » De menottes en strass aux barésies, la nouvelle économie libère un imaginaire dégagé justement de toute culpabilité. L'ultime manière de se créer un univers à soi, quand tout, sous l'œil de la caméra de surveillance planétaire, devient accessible et digitalement correct. Le nombre de sites roses se multiplie sur Internet, et ce au moment où le sadomasochisme entre dans l'air du temps, comme l'illustre le scandale causé par les films Romance de Catherine Breillat, ou Baise-moi, deux films qui marquent la reconnaissance du hardcore dans les milieux mondains parisiens. D'accord. Comme dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, on retrouve dans Romance une scène d'orgie à l'image d'une fascination collective pour l'échangisme et les corps emmêlés. Déifiée par l'art, la chair s'affiche donc sur les podiums, dans les galeries, dans les publicités, les musées, les vitrines. On pense également aux mannequins copulants des frères Chapman, mais également aux photos de Suzanne Meiselas, une photographe de l'agence MacDome, à laquelle la Bibliothèque nationale a récemment consacré une exposition. Il s'agit d'un plongeon dans ce qu'elle appelle le Disneyland de la domination, une sorte de palais SM sur la 5e avenue. On pense encore aux photos de Katharina Bossé, une Américaine de 31 ans, vivant à Cologne, où elle a exposé ses images prises dans des clubs d'échangistes. La littérature n'a pas résisté à cet attrait. De Christine Angot à Marie Dariussec, de Virginie Despentes à Claire Legendre, les femmes se sont appropriées d'un discours sur la chair, jusque-là réservé aux hommes. Alors, la question, c'est s'agit-il vraiment de chair ou de sa représentation ? Car jamais la photographie de mode n'aura autant mis l'accent sur les nus. L'événement de ces dernières années aura été bien sûr le sumo d'Helmut Newton, offrant en couverture un de ses nus fétiches, un budget de plusieurs millions de francs pour un livre édité à 10 000 exemplaires et vendu 10 000 francs par souscription sur un support spécial créé par Philippe Stark. Christian Dior voyait dans la mode une invitation à renouveler les sentiments amoureux. Le vêtement était à ses yeux un outil de séduction, comme il l'était depuis la Renaissance. Qui dit séduction dit aussi pouvoir. Le vêtement a longtemps été un attribut du pouvoir. En théâtralisant la chair, d'ailleurs invisible, le vêtement a magnifié par exemple la virilité. Au XVIe siècle, sous le pinceau de Giovanni Battista Moroni, Antonio Navagero, podesta de Bergame, arbore sous son manteau de velours à parements d'hermine un pourpoint rouge et des chausses munies d'une poche en épi qui mettent en valeur ses attributs phalliques. En France, les mignons de la cour d'Henri III ont mis en vogue la panse ou le panseron, un pourpoint rembourré qui formait une bosse volumineuse descendant en forme de corne jusqu'au bas des jambes. La mode qui participait à la mise en scène d'une vision dont le vêtement était l'acteur principal se trouve aujourd'hui mise à nu et le vêtement n'est plus que sa caution, parfois invisible. C'est ici que j'aborderai la deuxième partie, la chair de la mode, et je me demanderai d'abord si les créateurs de mode ne sont pas en train de devenir la chair à canon des financiers, car la griffe s'est métamorphosée en marque dont la réalité tient moins à l'imaginaire qu'à une présence publicitaire, immobilière, dans le contexte international. Le vêtement est devenu accessoire. Mieux, sur fond de guerre financière orchestrée par Bernard Arnault, LVMH, François Pinault et Prada, la décennie 90 a érigé l'accessoire en must. Du sac baguette de Fendi au mocassin Tod's, les accessoires ont volé aux vêtements sa suprématie. Mieux, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'accessoire était au fond un signe de séduction, de distinction, d'indépendance. Aujourd'hui, il est devenu un signe d'appartenance, un code de ralliement à une tribu. Le vêtement a largement servi d'alibi visuel à des professionnels plus spécialisés au départ dans la maroquinerie. C'est le cas de Prada, de Gucci, et leurs défilés ont suscité un véritable engouement médiatique à la télévision, avec la retransmission de ces défilés qui sont devenus de véritables rendez-vous pour le public qui était jusque-là un petit peu tenu à l'écart du programme. Ce qu'on appelle aujourd'hui les World Brand Names peuvent afficher leur succès. En 1999, Gucci lançait un groupe multimarque acquérant pour $1 milliard Yves Saint Laurent Couture et Sanofi Beauté. Pour le troisième trimestre 1999, le chiffre d'affaires de Gucci a dépassé les $302 millions, soit le record des ventes trimestrielles de toute l'histoire de cette société créée en 1923 et désormais cotée sur les marchés de New York et d'Amsterdam. Autre chiffre, entre 1993 et 1997, Gucci a multiplié par 10 son budget promotionnel dans le monde. Quant à la Prada Mania, elle se mesure à ses scores. Cette entreprise qui est restée familiale et qui est née en 1913 a vu ses ventes bondir de 60% en 97. Je me demanderai, à propos de cette idée de chair façade, si la chair n'est pas aujourd'hui ou n'est plus aujourd'hui que la peau morte d'une mode qui vend aujourd'hui plus d'images que d'éléments pour mettre en valeur cette chair. La rupture est là. Le couturier qui, depuis Dior, dont la maison devient aussi célèbre que de la Tour Eiffel dans les années 50, était une sorte d'orthopédiste du rêve, attentif à dissimuler tous les défauts. Il est aujourd'hui concurrencé sur son propre terrain par toute une armée d'embellisseurs, directeurs artistiques, photographes, maquilleurs, coiffeurs, stylistes, consultants et autres maîtres à penser de l'image et des concept stores conçus comme des temples de la modernité. Les photographes de mode ont accédé à un statut que jamais aucune décennie ne leur avait offerte. Le terme de directeur artistique est devenu si obsédant qu'il sert aujourd'hui à désigner le responsable image des magazines de mode, celui qui assure la maquette, et de l'autre côté, le nouveau concepteur d'un style maison, celui d'une maison de haute couture, qu'il s'agisse de John Galliano chez Dior ou d'Alexander McQueen chez Givenchy. Les nouveaux conquistadors du luxe, dotés d'un solide esprit d'entreprise, ont soudain fait basculer le royaume de la haute couture dans le musée Grévin de la mode, lui offrant pour seul décor une galerie de la nostalgie. J'aimerais, avant d'aller plus loin et de continuer sur cette idée de dématérialisation de la mode au profit de l'image, parler brièvement du corps au XXe siècle. Au fond, ce XXe siècle a marqué le triomphe du corps sur la chair. Du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, les traités de beauté avaient magnifié l'image de la blonde au teint de lait mêlé de rose, cette femme à la chair opulente, lumineuse et nacrée, qu'on retrouve encore à travers les nues aux rondeurs monumentales d'un Courbet. Le XXe siècle a enterré définitivement cette représentation de la femme féconde et débordante de sensualité. La suppression du corset par Poiret, puis les vicissitudes de la Première Guerre mondiale, et puis le sport, ont progressivement mis en avant une silhouette plus fine et plus musclée, incarnée par les garçons des années folles, avant que la mode ne relègue dans les greniers de l'histoire le culte de l'immobile beauté. Avant Poiret, le vêtement soumettait le corps à ses mesures. Avec la suppression du corset, le corps ne va cesser de soumettre les vêtements à ses mesures. Trois phénomènes ont contribué à ce renversement, on l'a dit, le travail, la guerre, le sport. La star des années 50 a servi d'ultime refuge aux amoureux des Vénus de la Renaissance. Les années 60, puis les années 70, ont largement allégé cette représentation de la femme, type Mae West ou Marilyn Monroe, au point d'associer à partir de ce moment-là la libération à une forme d'androgynie. Je dirais qu'à propos de chair divisée, puisqu'on parle de cet étiolement de la chair, un vêtement entre tous a contribué à standardiser cette chair, à la diviser justement. Il s'agit du pantalon, celui qui divise pour mieux régner et dont l'avènement marque la véritable séparation entre costume féminin et costume masculin. La dispute de la culotte ou la guerre des sexes a pris effet dès 1340. Plus tard, c'est Pantaleone, personnage de la Commedia dell'arte, vieillard goutteux, reniflant, toussant, crachotant au nez crochu, qui a donné son nom à l'un des vêtements les plus universels du monde. Interdit par Napoléon aux femmes, qui étaient condamnées alors à demander une autorisation de travestissement pour le porter, le pantalon a affronté bien des tabous. En 1909, un décret autorise les femmes à porter le pantalon, à condition qu'elles tiennent dans leurs mains les rênes d'un cheval ou le guidon d'une bicyclette. Cette année-là, le pantalon de harem fait ses premiers pas dans Scheherazade. Tenu des Amazones et des excentriques, le pantalon a longtemps mené une vie licencieuse, même si les premières à en prôner l'usage furent des suffragettes hygiénistes comme Amelia Bloomer, qui a donné son nom à un vêtement d'enfant. Les conservateurs voyaient même dans ce pantalon une insulte à la chair féminine. Les deux jambes de ce risque-tout ont marché sans relâche pendant tout le XXe siècle. Elles en sont à leur manière la mémoire, l'étoffe. Emblème du prêt-à-porter inspiré par le nouveau monde américain, le pantalon mis à la mode par Chanel et Patou, que nous pouvons voir ici à travers un modèle qui est extrêmement contemporain et qui date des années 30, a signifié plus qu'un vêtement. C'est une attitude qui a coïncidé avec la libéralisation de la pilule en 67 et la féminisation de l'emploi. Le pantalon affine la chair. Avec lui, d'ailleurs, on ne parle plus de chair, mais de corps. Unisexe, mobile, dynamique. Les femmes s'envolent dans l'espace et le pantalon leur donne des ailes. En 64, un an après l'envolée de Valentina Tereshkova, la mouette soviétique, on le retrouve dans la première collection d'André Courrèges, dont le blanc, symbole de lumière, auréole la femme nouvelle faite pour arpenter la lune en bottes chaussettes. Une autre révolution, plus durable, je crois, a marqué les années 60, celle du smoking, lancée par Yves Saint-Laurent en 66. Le concept même, une photo aussi. Le concept même de féminité lié à l'opulence de la chair s'est trouvé bouleversé par ce couturier qui n'a cessé de magnifier les femmes en leur offrant des vêtements volés aux hommes. Je parlerai justement, pour continuer sur cette idée d'effacement de la chair, de chair poids-plume. Depuis Yves Saint-Laurent, la chair de la mode a changé de registre. Les recherches et l'évolution des technologies ont fait que le tissu a volé à la peau sa sensualité. Le tissu est devenu une seconde peau. Ici, nous pouvons voir une photo de... Ouais. Alors ici le tissu est devenu une seconde peau, ici un métamorphogène de Marité et François Girbeau à la fin des années 80 qui ont fait du vêtement une sorte de peau malléable soumis à tous les gestes et toutes les extensions de la chair. Le premier de ces métamorphogènes ayant été fait au départ pour des femmes enceintes. Une autre photo. Non, mais il manque une photo. Je ne comprends pas. Il y a une photo d'avant à Zénine Alaïa. Voilà. Ici, le corps épinglé d'Azadine Alaïa, où le vêtement fait peau. C'est-à-dire que tu as un couturier qui suit le corps à l'extrême, qui recompose le corps à partir du tissu, qui épouse avec son extensibilité toutes les formes, les rondeurs, la cambrure du corps. Au fond, qui travaille à peu près comme un sculpteur. Dans un tout autre domaine, je pense à propos de chair pois plume à Issey Miyake, qui a fait du corps un mobile dans l'espace, allégeant le vêtement au point d'en faire une enveloppe en apesanteur. Voilà. Le succès de ces pleats-pleats a considérablement marqué les années 90. Sous le signe de la légèreté et de la mobilité, Issey Miyake a fait un triomphe avec ses t-shirts, ses robes du soir de quelques grammes. Sa force est d'avoir su transformer une prouesse esthétique, technologique, en un véritable succès planétaire, celui du prêt à s'envoler. Avec Issey Miyake, l'Albertine de Proust, qui était habillée par Fortuny, est entrée dans le troisième millénaire. Inspirée par les armures des samouraïs, les plissés poids-plumes d'Issey Miyake ont rendu au quotidien l'étoffe d'un rêve. Apparue en 1989, ces plissés ont fait le tour du monde. Des musées aux boutiques, des podiums à la rue, invitant des Indiennes à renoncer à leur sari, des Parisiennes à leur tailleur, pour le plaisir d'un vêtement aussi confortable qu'un survêtement, mais 10 fois plus léger. Entre mars 1993 et mars 1997, 680 000 pièces de pleats-pleats ont été vendues. Chaque année, 210 000 modèles sont commercialisés dans le monde entier. Ici, avec ce pantalon plissé, on voit que la technologie célèbre ses noces avec la nature, dans la mesure où la chair se trouve enveloppée de quelque chose qui ressemble à une écorce d'arbre et qui n'est qu'en polyester. Depuis, la mode s'est déplacée du côté de la virtualité. La chair est devenue véritablement poids-plume. 90, 64, 90, telles seraient les mensurations idéales, malgré le fait qu'une femme, seulement sur 100 000, corresponde à ces mesures. Il y a eu la vogue des transparences, des beiges nacrés, irisés dans le domaine de la lingerie. Aujourd'hui, la matière fait corps avec la peau, éliminant les inconfortables prothèses de toutes les séductions sous influence. Aujourd'hui très narcissique, la séduction est associée au bien-être et renvoie chacun à la conscience qu'il a de son propre corps ou de l'image idéale que chacun projette de lui-même à travers ce corps dont il peut surveiller les contours et décider de changer. Boîte noire du temps qui passe, la mode a sanctifié ses idoles, nouvelles divas millionnaires, les dernières à monopoliser le rêve, restent les top modèles, égérie d'artifice au sourire éternel, muse sans parole, d'un meilleur des mondes, lisse et sans reproche, mi-Bardot, mi-Barbie, immortalisée, comme on le voit avec la dernière campagne H&M par Claudia Schiffer. Avec des gains annuels évalués en 1994 par Fortune à 5,5 millions de dollars, la blonde de Hambourg est arrivée deuxième derrière l'américaine Cindy Crawford. Aujourd'hui, tout se passe comme si, prisonnier d'une galerie des glaces cathodiques, le corps ne tolérait que sa propre ombre sur lui-même. Pour l'été 2001, les couleurs évoquent des fards sur la peau aux nuances de fond de teint ou de poudre de soleil. Je voudrais qu'on montre deux images, celui de Thierry Mugler pour l'été 2001, qui multiplie des jeux d'illusions avec des robes couleur de bronzage, et parallèlement, une image de Nicole Trandvabang, qui est une artiste exposée à la galerie Emmanuel Perrotin, en fait, qui crée des enveloppes paracharnelles, si je puis dire, et qui superpose des peau artificielle, faire débardeur, bottes ou culottes sur le corps. On peut revoir peut-être l'autre image pour montrer aujourd'hui ce parallèle dans ces jeux d'illusions entre la mode et l'art. Je dirais aussi que la mode, la photo de mode a pris le pas sur le vêtement, aussi léger soit-il. D'où l'importance du travail à la paint box qui gomme les rides, efface les plis, nettoie l'image de toute trace de réalité, c'est-à-dire du temps. L'instant suprême de la pose échappe à toute narration, en ce sens que la photo de mode le précipite dans une autre galaxie. Au royaume des retouches, l'avenir se conjugue au plus que parfait, standardisant le rêve sur mesure. La ride ou le kilo en trop sont devenus aujourd'hui beaucoup plus tabous que la tache ou le trou. J'aimerais, pour illustrer ce phénomène et le relativiser, comparer plusieurs photos. Tout d'abord, deux images de la campagne publicitaire Opium d'Yves Saint Laurent. Je rappelle que c'est un parfum qui fit scandale lors de son lancement, et que, par exemple, une association de Chinois new-yorkais demanda de débaptiser. Cette photo, la première, est signée Helmut Newton. Elle date de 1978. Elle montre Jerry Hall habillée, soyeuse, dans une alcôve chinoise parée d'orchidées. C'est un petit peu une invitation à faire partie d'un club, à se laisser envoûter par les vapeurs opiacées d'un parfum de dépendance. Avec ce parfum qui correspond à ses grandes collections russes, chinoises, Yves Saint Laurent déplace la chair libérée des années 70, la chair unisexe, du côté d'une volupté retrouvée, et ce, vers l'exotisme du secret, d'un corps de muse à vénérer. Avec ses odalisques, il fait souffler sur les tabous de la mode occidentale, un vent d'Orient, comme pour tout montrer, sans rien laisser voir. La seconde image, elle date de cette année. Non, c'est avant, en fait. Voilà. La seconde image, toujours Opium. Je rappelle que c'est un des parfums les plus vendus dans le monde. C'est une image qui date donc de cette année. Elle est signée Steven Meisel. Et elle montre le mannequin Sophie Dahl complètement nu avec des souliers d'or. Je rappelle que le concepteur de cette image est Tom Ford, qui est aujourd'hui le président d'Yves Saint Laurent. Je montrerai une troisième image. C'était l'image d'avant. Voilà. C'est une autre image qui est signée Jean Loussieff. Qu'elle on peut rendre hommage, qui vient de mourir. Et en 71, Yves Saint Laurent fut le premier couturier à poser nu. Il le fit à l'occasion du lancement de son premier parfum pour homme. Il faudra attendre 93 pour que Luciano Benetton reprenne cette idée, mais cette fois au nom d'une cause. Là encore, cette image a fait scandale. Et certains journaux ont refusé même de la publier. On a du mal à imaginer tout ce que cette image a pu déclencher comme insulte, comme ricanement. La vision de cet homme a remis en cause bien, bien des choses. C'est-à-dire que ce nu, en fait, était bien plus qu'un nu, c'était une revendication. C'était la première fois qu'un couturier qui était censé vendre des vêtements mettait en scène ainsi son corps, qui était celui d'une génération et qui parlait de libération, d'homosexualité et de paradis perdu. 30 ans plus tard, jamais la chair, on l'a vu, n'a été autant exposée. Et on l'a vu avec l'image de Sophie Dahl, épilée, statufiée, la nudité est devenue une sorte de mieux-disant médiatique et commercial. Mais je crois qu'en se démultipliant, en se dupliquant, la chair est devenue presque muette. Elle a perdu son aura sensuelle qui suppose un parti pris, un projet, une vision du monde. Or, la chair de la mode a été absorbée par une représentation très lisse et très propre du corps, qui, je crois, est la négation du corps et sa capacité à jouer. On est loin, très loin, de ce qui avait fait en son temps la magie Saint-Laurent, cette idée d'habiller le corps de nu, de le voiler de transparence, dans un cache-cache entre la peau et le vêtement. Je crois que la force suprême d'un vêtement, c'est de donner de l'assurance à celle ou à celui qui le porte, et surtout l'envie de l'enlever à celui ou celle qui le voit. Sans ce rapport triangulaire entre le vêtement, le corps et l'autre, la chair de la mode se trouve vidée de sa substance. À la question « Quel est le but de la mode ?», Tom Ford, le directeur de la création de chez Gucci, et aujourd'hui donc président d'Yves Saint-Laurent, a pu répondre « Nous rénover. Tous les jours, notre miroir nous renvoie le même visage. Chaque jour, un peu plus usé et un peu plus vieux. » Il propose « Mettez un veston propre et neuf, un pantalon fraîchement repassé, des chaussures bien cirées, des boutons de manchette en argent, une belle montre, et vous vous sentirez immédiatement mieux. » La chair s'est faite ainsi miroir. On assiste depuis quelques années à un phénomène de plus en plus ravageur. Le couturier et le créateur de mode sont concurrencés sur leur propre terrain par leur chirurgien esthétique. Le créateur même devient chirurgien esthétique. Dans les années 60, le déclin de la haute couture commença lorsque les femmes du monde préférèrent offrir à leurs filles une mini Austin plutôt qu'une robe de débutante. Aujourd'hui, celles-ci s'achètent des lèvres en silicone ou des faux seins comme elles s'offrent un sac Prada ou Gucci. Dans les blocs opératoires spécialisés, on aspire, on coud, on repasse comme dans un atelier de haute couture. L'aiguille de la première d'atelier a cédé la place au scalpel et au rayon laser du chirurgien. Le corps machine des années 80, dont parlait Baudrillard, est devenu un corps bijou qu'on polie, qu'on entretient, une sorte d'ultime trésor dans un monde menacé par le sida, la vache folle, l'eau frelatée, etc. Aussi, les couleurs de la mode se définissent aujourd'hui en fonction des nuanciers de cosmétiques. Nourrir et hydrater sa peau de l'intérieur, retrouver un ventre plat, préparer son bronzage. La mode s'est déterminée en fonction de ces nouvelles préoccupations, de la vogue des alicaments qui correspondent à l'invasion du temps libre dans la vie quotidienne. En passant du bureau à la maison, le corps s'est assoupli, s'est débarrassé de ses prothèses, épaulettes, cravates, pour se lever au cœur de ce nouvel hédonisme. Le corps s'adonne au culte de l'alimentation intelligente, dont les ingrédients ont fait du beige riz complet et du blanc bifidus des couleurs basiques de la mode. Le style bio a métamorphosé la nonne des podiums et tiré par de longues cachemisères en jeune fille rayonnante, bronzée, montrant ses jambes hâlées sous un pull tricoté à la main. Au cours des années 90, et pour parler de cette chair aujourd'hui doudou, la jeunesse est devenue obligatoire. Ici, une image de Derwin Olaf. Non, c'était pas ça. Ah, c'est pas... Non, c'est ça, pardon. C'est moi qui l'ai. Voilà. Pour illustrer cette sorte de tyrannie du corps et du bien-être, une image donc du néerlandais Erwin Olaf. Je dirais que la régression qui a accompagné cette tyrannie du corps en est le manifeste. Tout le monde a voulu devenir non seulement jeune, mais de plus en plus jeune. Entre robes de princesse et cosmétiques d'Alice au pays des merveilles, la mode et la beauté se sont mises à jouer à la poupée. Les enfants sont devenus de nouvelles victimes de la mode. Les adultes, eux, se sont mis à voir la vie en XX small et pris de nourriture douce, de fragrances parfumées pour voir la vie en rose. Au royaume de ce que Time appelle le Toyland, la chair de la mode s'est déplacée du côté de la peluche, du robot domestique comme le chien Aibo de Sony, qui est un véritable phénomène, du gris-gris, de la peluche pour adultes ou pour enfants. Ici, pour montrer que cette idée de régression de la chair et cette idée de transfert, un nounours griffé Gucci. Je dirais que, relayée par la vogue manga, la Miu Miu Mania s'est emparée de la mode. Née en 98, Miu Miu, la seconde ligne de Prada, plus particulièrement destinée aux jeunes filles, a donné le la de la fin de la décennie. Après Kate Moss, qui était révélée au début des années 90, Audrey s'est imposée sur les podiums de Milan, de Paris, de New York. Le corps de Kate Moss parlait de la crise, celui d'Audrey parle de l'enfant éternel, portant ses vêtements comme s'ils avaient été ceux de sa mère. Avec la fin de la crise, le corps a retrouvé son appétit. Les couleurs de l'été 2001 évoquent des boîtes de bonbons renversées. Les catalogues mettent en scène des mannequins dans des cuisines ou dans des restaurants. Les crèmes de beauté ressemblent à des soufflets, des petits pots de bébé. Il est vrai que le luxe aujourd'hui est dans l'assiette, que le corps participe à cet imaginaire gastronomique retrouvé, où les grands chefs sont un peu les couturiers du goût et des saveurs. Je vous montrerai ici des images de de Taste, la revue de l'Observatoire de Première Vision. Ici, c'est une photo de beauté dont les accessoires, en fait, les cosmétiques, sont de la crème chantilly, des carensacs sur les paupières et du chocolat sur les lèvres. Une autre image, très chocolatée. Voilà. Ici, du sirop. Et enfin, voilà, des images signées Jean-Baptiste Mondino pour Taste. Pour terminer, je parlerai de l'habit fait chair. Je dirais que la représentation de la chair, au-delà de sa virtualité, passe aujourd'hui par deux extrêmes. Du corps à croquer, on l'a vu, au corps cannibale, amoureux de lui-même au point de dévorer sa propre image. On s'est mis à décorer son corps comme on aménage un intérieur. Piercings, tatouages, bijoux éphémères mettent en avant ce marquage du corps, tour à tour cathédrale, bazar ou titanique. Cindy Sherman a été l'une des premières à mettre en scène son propre corps, un corps paré d'artifices, de faux seins, de faux nez. Et aujourd'hui, elle pousse l'artifice jusqu'à photographier des poupées au corps trafiqué, déformé par la chirurgie esthétique. Voix. Là encore, ces images assez dures inspirent les créateurs de mode, comme si la chair regonflée était devenue une sorte de malle au trésor, pleine de corps accumulés, déchiquetés, et donc elle recracherait des morceaux, bourrelets, ligaments, poches de tissu et poches de silicone, implants de toutes sortes, recyclables en idées de vêtements. Cette chair, des artistes la vide de ses tripes. Ici, une image assez dure aussi, mais qui est signée par des artistes russes, le groupe AES, sorte dans cette mise en scène de la chair qui se vide. Et cette installation s'appelait Corruption. Je dirais qu'on est au cœur des préoccupations du corps et de l'art aujourd'hui, car ce corps... beaucoup se plaisent à le déformer, à le trafiquer dans une sorte de mise en scène de la monstruosité qui est peut-être une alternative à toutes ces visions du corps lisse et plus que parfait. Orlan fait de son corps un objet qu'elle offre à la chirurgie esthétique et se plaît à travers ses photos à le montrer déformé, cloqué, surdimensionné. La chair se déplace aujourd'hui du côté de l'étrange, de la déformation, qu'il s'agisse des Siamois, des frères Chapman. Attendez, je l'ai là. Ça, c'était une exposition qui avait fait un grand bruit l'année dernière. C'était l'exposition Sensation à Londres, qui avait présenté toute l'avant-garde de la création britannique. Qu'il s'agisse des frères Siamois, des frères Chapman, ou du pantalon à une jambe lancé par le créateur américain Jeremy Scott. Les expositions donc comme Sensation, Apocalypse à Londres ou encore Le Corps Mutant à Paris se multiplient. On dirait que dans une parade à la psychose de la vache folle, le corps se découpe et devient viande, une sorte de prêt à découper, oui, qui alimente l'inspiration de tous les petits-enfants spirituels de Bacon à travers une théâtralisation de la déchirure. Dans la série Royal Blood du néerlandais Erwin Olaf encore, des personnages comme Diana, Sissi, César posent impassibles en tenue de gala et éclaboussés de sang. Une autre représentation ici de la chair, le corps poulet de Lucas Sara. Pour terminer, je dirais que à propos de ces habits de peau, de cette peau faite habit, que le vêtement du futur devrait faire corps avec la peau. emboîtant le pas de l'agroalimentaire qui a inventé avec les alicaments ou les cosmétiques food de nouveaux gestes de santé prêts à consommer. Le textile s'associe à la médecine. On parle aujourd'hui de cosméto-textile. Extensible, soyeux, respirant, imperméable, thermorégulant, le vêtement se fait seconde peau pour protéger le corps contre la pollution, le stress, les microbes ou les rayons nocifs du soleil. Conçu d'abord pour le domaine médical ou sportif, les fibres high-tech entrent peu à peu dans nos vestiaires pharmacie. Les tissus crème solaire empruntés aux tenues cyclistes filtrent les UV grâce à l'oxyde de titane. Et le stress urbain, engendré par les ondes électromagnétiques, possède aussi son remède textile. Encore à l'étude dans les laboratoires, les tissus thérapeutiques restent encore limités au domaine médical. Alors que les patchs diffusent déjà des substances cicatrisantes ou des médicaments, ces nouveaux tissus intelligents se transformeront bientôt peut-être en serre-tête analgésique, en drap vénotonique, en t-shirt capable de prendre la température du corps ou de mesurer la tension artérielle. Si le vêtement du XXe siècle a joué avec les codes de la fonction et du désir, le vêtement du XXIe siècle pourrait bien jouer un rôle nouveau, ne plus couvrir, protéger la chair ou la mettre en scène, mais se laisser presque ingérer par elle dans un grand festin des apparences. Je dirais pour conclure, je conclurai avec cette formule d'Yves Saint-Laurent qui disait en 68, il y a trois sortes de personnes qui font de la mode. Il y a les couturières, les couturasses et les couturiers. Dans les couturiers, il incluait Chanel, Balenciaga et sans susciter lui-même. Aujourd'hui, je crois qu'il y a trois sortes de professionnels de la mode. Ceux qui font de la mode comme on vend des produits de grande consommation, qui vendent des pulls comme on vend du pain en tranches, par exemple Gap, Calvin Klein, Zara. Il y a ceux qui font de la mode, qui ont fait de la mode une profession de foi médiatique, comme John Galliano chez Dior, qui véhicule pour le grand public toutes les images de l'érotisme 1900-2000 et toutes les poncifs de la parisienne courtisane. Enfin, ils sont plus rares, ce sont ceux qui donnent à la chair une âme et qui font du vêtement son complice sensible et intime. Voilà.
Je
voulais vous présenter une vidéo, je ne sais pas peut-être ça vous intéressera. En fait, c'était une vidéo qui avait été réalisée par Patrick Binsart, le directeur de la Cinémathèque de la Danse, à l'occasion de l'exposition qu'on avait montée sur le pantalon au printemps. Et je pense que, enfin, pour moi, il s'agit d'un montage de films de danse. Et après toutes ces images un petit peu tragiques, je voulais montrer que, au fond, si on parle de chair de la mode, on parle aussi de mouvement, d'énergie, de liberté, de plaisir. Et l'âme de la mode, c'est la danse, c'est la liberté d'aller, de venir, de danser. Et toutes ces images de danse le rappellent. Andy Zaraf, dans les années 40, ce ne sont que des comédies musicales. Donc c'était tout autour du pantalon. Rodolphe Nureyev en 73. Rudolf Valentino. Jean Balibot, le danseur volant. Lucie Delchaï. Mm-hmm. James Cagney. Louise Béjart. Elvis Presley, que la télévision américaine censura, on ne montrait pas ses hanches, car elles étaient trop provocantes. Merce Cunningham, enfin la compagnie Merce Cunningham. Roberto Jiménez, 1952. William Forsythe, qui porte d'ailleurs un plissé de miyake. Je rappelle que, en fait, les vêtements de ces miyake avaient d'abord été faits pour les danseurs. Le film a été réalisé en 95. De la gaieté parisienne. And that kind of exaggerated noise. En 88. Femme à danser le flamenco en pantalon. Les capoeiristes, la lutte brésilienne. Thank you.
Jennifer Lopez. Nicolas Brothers. En 42. Enfin, Jean-Paul Bouffe. Won't you juju me home? Chattanooga juju. On a beaucoup parlé à la rentrée de campagnes pour des grandes marques, style Christian Dior, où il y avait des images de sadomasochisme notamment. Je voulais savoir votre avis dessus. Est-ce qu'il y avait un risque à ce type de campagne?
En fait, sadomasochisme, c'est le jugement qu'on porte sur ces campagnes. Et c'est vrai que toutes ces images, les images d'un garrot et d'autres images, ont alimenté tout ce discours dont j'ai parlé sur le porno chic. Je dirais que, en fait, moi, je les trouve, ces images, je les trouve absolument pas provocantes. C'est juste qu'elle banalise quelque chose, elle banalise peut-être l'idée du corps, le fait qu'elle présentait ces deux femmes ensemble, convoitant un sac. Elle, au fond, elle projette des images qui jusque-là étaient réservées à l'univers du X. En tout cas, je les trouve moins dangereuses que toutes les images de violence qu'on peut retrouver à la télévision, par exemple. Je les trouve pas.
Ces hommes qui lacérés de.
Pardon.
Les hommes qu'on voit les bustes. De Koukaï ou.
Je trouve ça plus à la limite. En fait. Si vous voulez, je crois que l'important aussi, c'est de marquer son temps. Et je pense que, par exemple, des publicités comme celle de Koukaï, où on voit un homme lacéré, je trouve qu'au moment où, effectivement, la violence se multiplie, qu'elle touche des gens de plus en plus jeunes, je trouve ça assez inquiétant comme interprétation, comme vision, comme scénario de l'image de la femme qui a lacéré son ami à coups de couteau. Ça, je trouve ça assez violent. Et en même temps, je trouve ça assez faible, parce que c'est reprendre des choses qui avaient déjà été faites, plus ou moins, sur le plan esthétique, par Benetton dans les années 90.
Merci, c'était vraiment passionnant.
Merci beaucoup.